Matin se poursuivre au retrouver Arnaud Pontus.
Merci Alexis Friquet, à suivre dans quelques minutes. Focus sur la présidentielle à Djibouti, elle a lieu vendredi. Puis la revue de presse où l'on parlera largement des Panama Papers.
Vivez votre passion du sport avec Moneygram, transfert d'argent.
Les sports, c'est avec Christophe Diremzian. Bonjour Christophe.
Bonjour Arnaud.
Le football à la une, les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, ça démarre ce soir avec notamment le FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid.
Oui, encore un choc entre le Barça et un club madrilène, des Catalans tenant du titre, évidemment désireux de ne pas subir le même sort que face au Real samedi lors du Classico. L'Atlético, lui, n'a pas connu de difficultés ce week-end en Liga contre le Betis Séville, écrasé 5-1. Son attaquant vedette Antoine Griezmann a dû répondre face au diabolique trio Messi, Suarez, Neymar, mais pour le défenseur du Barça, Gérard Piqué, la désillusion de ce week-end est déjà bien digérée et le duel qui se prépare au Camp Nou est stimulant.
Ce qui nous excite, ce qui nous plaît vraiment, ce sont les défis qui nous attendent maintenant. Celui de ce mardi, après un mauvais match, après une défaite à domicile. Jouer ce match nous emballe tous, qui plus est face à un grand adversaire comme l'Atlético Madrid, avec l'envie de tout donner et de montrer pourquoi nous sommes une équipe qui a tout gagné, qui l'a fait plus d'une fois et qui a l'envie de recommencer. Une défaite ne change rien. C'est vrai qu'au Barça, nous avons toujours tendance à broyer du noir, mais depuis un bon moment, ça a changé. N'importe quel supporter aurait envie de rejouer au plus vite avec le Real Madrid. Je crois que nous devons rester confiants en nous-mêmes et par rapport à tout ce que nous avons réussi.
Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone à l'aube de son quart de finale aller de Ligue des Champions. Coup d'envoi 18h45, temps universel. Parallèlement, le Bayern de Munich affronte le Benfica Lisbonne. Chelsea, éliminé de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, qui n'a plus rien à espérer en Première Ligue non plus, va préparer la prochaine saison avec Antonio Conte à sa tête. L'actuel sélectionneur de l'Italie succédera officiellement et pour 3 ans à Gus Hiddink à l'issue de l'Euro 2016.
Et pendant ce temps, à Marseille, Mitchell reste sur le banc, du moins pour l'instant.
Oui, 4 heures de réunion pour pas grand-chose hier à Zurich, chez l'actionnaire majoritaire du club, Margarita Louis-Dreyfus, avec l'entraîneur, son adjoint Franck Passy et le président Vincent Labrune, le plus chaud partisan du limogeage du technicien. Mais une telle décision coûterait entre 2,5 millions et 3 millions d'euros d'indemnité de licenciement. Et l'OM ne peut pas se le permettre. Mitchell devrait donc continuer à se cramponner à la barre d'un navire qui prend l'eau de toutes parts. Seulement 13e de Ligue 1 et 6 points d'avance sur le premier relégable à 6 journées de la fin, plus aucune victoire depuis 2 mois et un moral dans les chaussettes que seule la Coupe de France pourrait éventuellement remonter puisque les Marseillais iront disputer leur demi-finale le 20 avril prochain à Sochaux. Enfin, pourquoi ne pas instaurer un système de montée-descente dans le tournoi des 6 nations? C'est l'idée émise par Bernard Lapasset, le président de World Rugby, qui quittera ses fonctions le mois prochain pour se consacrer entièrement à la candidature de Paris pour les Jeux 2024. Le but étant d'ouvrir la compétition aux nations émergentes comme la Roumanie ou la Géorgie. Le tournoi a été fermé depuis sa création en Grande-Bretagne en 1883. L'Italie a été le dernier pays à être admis en 2000.
Merci Christophe Diremzian.
Le journal des sports vous a été proposé par Moneygram, transfert d'argent. Plus de 2500 points de vente Moneygram à votre service partout en France. Moneygram, le lien qui vous rapproche.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
Avec à la une les suites du scandale des Panama Papers, on attend de nouvelles révélations du journal Le Monde, des informations sur un parti politique français, des responsables publics et de riches particuliers français impliqués. Des enquêtes pour blanchiment ont été ouvertes dans plusieurs pays après les révélations tombées dimanche soir. Tentative de médiation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie après les combats du week-end dernier dans la région du Haut-Karabakh. Le groupe de Minsk, qui regroupe entre autres la France, la Russie et les États-Unis, se réunit aujourd'hui même à Vienne. À Djibouti, c'est vendredi que doit avoir lieu le premier tour de l'élection présidentielle, un scrutin sans véritable enjeu puisque la plupart des observateurs s'accordent pour dire qu'il verra la réélection du président Ismaïl Omar Guelleh. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Arnaud.
La constitution a été modifiée en 2010, elle ne limite plus le nombre de mandats, elle autorise donc le président à se représenter malgré sa promesse de ne pas le faire.
Oui, il suffit de comparer les interventions du président dans la presse. Il y a 5 ans, on pouvait lire « En 2016, je m'en irai, je peux le jurer ». Et en mars dernier, il déclarait « Les Djiboutiens m'ont interdit de partir ». Son parti a donc lancé une campagne sur les thèmes de l'unité et de la stabilité. Je vous propose d'écouter Mahmoud Ali Youssouf, porte-parole du gouvernement.
Nous sommes très confiants parce que la campagne se déroule très très bien. La mobilisation populaire est très importante partout où notre candidat se déplace. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Et donc, je crois que les signaux sont positifs et au vert pour l'instant.
Voilà, une sérénité qui peut se comprendre, hein, puisque le camp présidentiel a face à lui une opposition profondément divisée.
Oui, depuis 2010, l'opposition est rassemblée dans l'Union pour le Salut National, qui a appelé au boycott du scrutin. Une position toujours défendue par le président du MRD, Daher Ahmed Farah.
Ce qui sortira de cette élection n'aura aucune légitimité démocratique, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une mascarade, que le régime n'a pas voulu mettre en œuvre l'accord cadre politique signé avec l'USN le 30 décembre 2014, un accord qui prévoyait la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante paritaire.
Alors en février dernier, cet accord n'est toujours pas respecté, et pourtant l'USN explose en plein vol car une partie de ses membres désigne un candidat pour le scrutin. Il s'agit d'Omar Elmi Khayre. Écoutez les explications de son directeur de campagne.
C'était pour ne pas laisser un boulevard vide à la dictature. Plus on s'entêtait à boycotter, plus on s'écartait de la scène politique et du terrain. Et c'était une aubaine pour la dictature en fait, parce qu'il arrivait facilement à mettre à notre place une opposition fabriquée par le régime.
Notez qu'un concurrent se présente aussi comme le candidat unique de l'USN. On lisse également trois candidats indépendants, mais sans grande illusion. On va à l'élection comme à l'abattoir, selon l'un d'eux. Plusieurs sources laissent entendre que ces candidats pourraient avoir été suscités par le pouvoir, divisés pour régner en quelque sorte.
Alors, il y a un climat de répression depuis plusieurs mois à Djibouti, et l'opposition ne cesse de dénoncer des vagues d'arrestations parmi ses membres. Le secrétaire général de l'USN est d'ailleurs toujours en prison.
Oui, avec un pic de tension le 21 décembre, quand la police tire sur la foule à Balbala. Bilan, 9 morts selon les autorités, plusieurs dizaines selon la FIDH. Aujourd'hui, ONG Opposition dénonce des irrégularités sur les cartes d'électeurs, des entraves aux candidats. Le pouvoir dément, mais refuse la venue des experts de l'Union européenne.
Alors hier, une équipe de la BBC a été expulsée du pays. On va le rappeler, hein, Djibouti est classé 170 sur 180 pour ce qui est de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. C'est une situation sur laquelle la communauté internationale reste plutôt discrète, Carole.
Oui, et la présence des bases militaires occidentales n'y est pas pour rien, selon Dimitri Verdonck, président d'une association de promotion des droits de l'homme. On l'écoute.
La liberté d'expression, au moins un média indépendant, tout ça n'existe pas à Djibouti. Omar Guelleh ne remplit pas sa part du contrat. Mais en même temps, ils ont besoin du Djibouti pour ce que Djibouti représente par rapport à la lutte contre la piraterie, à la lutte contre le terrorisme. C'est un ami difficile à fréquenter. Ça reste un ami.
Alors pour lui, le principal perdant de ce statu quo, c'est le peuple djiboutien, fortement touché par le chômage et la pauvreté. Les jeunes en particulier seraient de plus en plus nombreux, à fuir le pays.
Merci Carole Valade pour ce focus avant la présidentielle à Djibouti qui a donc lieu vendredi. 8h23 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, Panama Papers, la suite.
Oui, toute la presse ce matin fait sa une sur ce qui est sans doute l'un des plus gros scandales financiers de l'histoire. L'argent caché, dissimulé au fisc, accumulé dans des paradis fiscaux par plus de 140 personnalités du monde entier. La liste est impressionnante, faut-il le rappeler, de Vladimir Poutine à Michel Platini, en passant par le roi du Maroc, le président ukrainien, ou encore le footballeur Lionel Messi. L'argent caché des chefs d'État, s'exclame Le Monde. À l'origine de cette enquête, avec plus d'une centaine de journaux du monde entier, Panama Papers, le hold-up planétaire, lance Le Parisien, le butin caché du grand pillage mondial, s'insurge l'humanité, l'onde de choc de Panama Papers, constate Le Figaro, le séisme, renchérit Le Télégramme, c'est la lutte fiscale, ironise Libération, la grande évasion, soupire Lyon Républicaine, le grand déballage, insiste la Nouvelle République.
Un triste et effrayant constat pour les dernières nouvelles d'Alsace.
Ce que montrent ces documents, c'est le niveau de corruption au plus haut niveau des États, y compris démocratiques. Et il donne le vertige, soupire les dernières nouvelles d'Alsace, quand des présidents, quand des rois, quand des premiers ministres trahissent leur peuple, alors c'est que le contrat social est rompu. Quand des politiques, poursuit le quotidien alsacien, mais aussi des partis, des sportifs, des hommes d'affaires ou de richissimes inconnus usent des mêmes canaux que les mafieux pour blanchir leurs avoirs ou pour contourner des sanctions internationales, alors c'est que les fondations mêmes de notre système sont pourries. Ressortent de tout cela une impression de nausée et un sentiment de révolte, peste sud-ouest, tout cet argent détourné, dissimulé, souvent inutilisé, quand des peuples entiers vivent sous le seuil de pauvreté, quand des centaines de milliers de gens fuient la guerre, la famine ou les conséquences du dérèglement climatique, tous ces pays de cocagne, comme l'Algérie par exemple, que la corruption et les détournements de la manne pétrolière confinent dans le sous-développement, le tout sur fond d'inégalités croissantes, dans un monde où une petite minorité, toujours plus opulente, détient une part croissante de la richesse, au détriment du reste de la population. Finalement, rien de bien surprenant pour l'humanité.
L'affaire Panama Papers n'est malheureusement qu'une petite partie émergée de l'iceberg, dénonce le quotidien communiste. Elle révèle une nouvelle fois l'ampleur du vol organisé des multinationales et des milliardaires fugitifs qui s'abritent derrière un maquis touffu de montage financier pour finir leur course sous les cocotiers. Ce sont ces mêmes délinquants, en col blanc, au portefeuille bien rempli, dénonce encore l'UMA, qui chassent en meute les allocations familiales et le RSA. L'évasion fiscale n'est pas un dysfonctionnement, conclut le journal, mais bien le nerf de la guerre d'une classe sociale mobilisée au-dessus de tous les États pour ne pas contribuer à la solidarité nationale.
Le Monde lance pour sa part cet avertissement.
On pourra toujours continuer à s'offusquer du complotisme ambiant, déplorer le rejet des élites et la montée des populismes. Rien ne sera crédible tant que persistera cette intuition qu'une infime part de l'humanité s'exonère, en cachette, des devoirs communs et de l'intérêt général. On pourra toujours débattre, poursuit Le Monde, de ce qui est légal, immoral ou illicite dans les structures offshore. Aucun distinguo ne sera audible tant qu'il sera recouvert par ce sentiment d'injustice, nourri par l'avidité de quelques-uns. Le chemin semble encore long, soupire Le Monde. Les déclarations optimistes des dernières années sont encore très éloignées de la réalité dévoilée par les Panama Papers. Le nombre de pays qui, bon gré mal gré, se sont résolus à renoncer à une partie de leurs secrets a toutefois augmenté. Mais ces bonnes résolutions resteront vaines tant qu'un petit nombre de nations se déroberont à l'effort collectif. Au premier rang de ces délinquants, le Panama, pointe Le Monde, qui se signale depuis des années par son refus obstiné de s'associer au mouvement général et qu'il est urgent de replacer sur une liste noire qui l'expose à des sanctions. Libération, lui, se veut plus optimiste. Globalement, la publicité des mouvements de fonds, qui peut affecter toutes sortes d'organismes financiers spécialisés dans les paradis fiscaux, agira comme une force de dissuasion. Estime le journal, empêchés de vivre cachés, les candidats à l'opacité vivront moins heureux. Ce mouvement doit être vigoureusement encouragé, il est fiscalement et civiquement fructueux. On estime, affirme Libération, pour la France, à quelques 40 milliards d'euros le manque à gagner occasionné par la fraude, soit l'équivalent du déficit annuel du pays à un moment où l'État, endetté massivement, doit sans cesse pratiquer des coups de sombre dans ses dépenses et faire porter le poids de l'impôt sur ses citoyens en règle avec le fisc. On dira que c'est une tâche sans fin. Tempère Libération, et qu'un paradis fiscal ramené à la raison est remplacé par un autre. Il y a quelque chose de Sisyphe dans ce travail de moralisation, mais comme le dit le philosophe, conclut le journal, il faut imaginer Sisyphe heureux.
En tout cas, première conséquence concrète de ce scandale en France, bonne nouvelle pour Bercy, s'exclame Ouest-France.
Un millier de Français seraient touchés par ces révélations, dont un parti politique, d'ailleurs, dont le nom devrait être révélé aujourd'hui mardi par Le Monde. François Hollande et son argentier Michel Sapin, qui portent haut la future loi pour la transparence de la vie économique, promettent des enquêtes fiscales et des procédures judiciaires. Ils voient là, surtout, affirme Ouest-France, une occasion inespérée de remplir les caisses vides de l'État. En effet, relève aussi la Voix du Nord, l'ironie de l'histoire, c'est que pour l'État français aux caisses vides, ce nouveau scandale planétaire eh bien, fait presque figure de bonne nouvelle. François Hollande promet des enquêtes judiciaires et fiscales et des rentrées inespérées à la clé.
Et puis, pour le Midi Libre, ce scandale marque l'avènement d'un nouveau système, celui des lanceurs d'alerte à l'échelle planétaire relayés par les médias.
La divulgation des évasions fiscales menées au Panama est une grande victoire pour la démocratie, estime en effet le Midi Libre. D'abord, parce qu'elle rassure sur la force des médias et des réseaux sociaux qui, à travers le monde, ont mis leurs efforts en commun pour dénoncer ce scandale. Une puissance contre laquelle les politiques ont désormais peu d'emprise, fussent-ils les maîtres du Kremlin, de la Chine ou de Levallois-Perret. Grâce aux veilleurs d'alerte, le monde est devenu un village ouvert dans lequel les secrets sont de moins en moins bien gardés, pointe encore le Midi Libre, qu'ils soient financiers ou d'une autre nature. Tout se voit, tout se sait, tout se dit, tout est révélé. C'est la rançon d'un nouveau système.
La revue de presse signée Frédéric Couteau, vous la retrouvez évidemment sur notre site internet rfi.fr. À suivre dans un instant l'actualité africaine. Nos invités, deux candidats de la présidentielle de dimanche au Tchad. Dans Afrique Économie, on reviendra sur la dernière dévaluation de la livre égyptienne. Et puis nous visiterons au Grand Palais l'exposition du photographe Seydou Keïta.
Le Sénégal, sur la voie de l'émergence. De la verdure des campagnes au dynamisme des villes, le Sénégal et son plan Sénégal émergent offrent nombre d'opportunités pour bâtir un avenir meilleur.